Nous sommes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Istrie était italienne et on assiste à une sorte de course des armées, et notamment de l'armée du maréchal Tito qui remonte la Yougoslavie et qui veut absolument libérer ses terres et déplacer au maximum les frontières de la nouvelle Yougoslavie. Voilà le contexte dans lequel se situent les massacres.
Alors les historiens évoquent deux vagues de massacres. Qu'est-ce qui les distingue ?
Lors de la première vague de ces massacres, on peut encore croire en une sorte de réaction spontanée des Slovènes qui, sous le fascisme, ont été persécutés, leur a interdit de pratiquer leur langue, on a italienisé leur patronyme, etc. Donc il y a toute une rancœur qui s'est accumulée, d'autant plus qu'il y avait une forte opposition sociale. Quand on assiste à la deuxième vague, à ce moment-là, on voit bien que tout cela est orchestré par le nouveau pouvoir titiste qui s'est emparé de ces terres. À Trieste, l'occupation titiste proprement dite a duré 40 jours. Et ça a été véritablement 40 jours de terreur. Les Italiens n'osaient plus sortir. Ils entendaient la nuit des fusillades, des exécutions sommaires. Ils voyaient des tas de gens arrêtés, y compris des femmes, emmenées dans des camions et dont on n'a plus eu de traces.
On peut donc parler de nettoyage ethnique planifié ?
Tout à fait. C'est un nettoyage planifié, à la fois un nettoyage ethnique et un nettoyage idéologique. L'autre but, c'était évidemment que les communistes arrivent au pouvoir, et pas seulement d'autres Slaves qui auraient pu légitimement demander un autre régime que le régime communiste. Toute l'Istrie pratiquement est devenue yougoslave, sauf un étroit couloir juste autour de Trieste.
Alors ça fait plus de 60 ans que Trieste est redevenue italienne, et pourtant on célèbre seulement aujourd'hui la première journée du souvenir de ces massacres. Comment expliquer que cette page sombre soit restée occultée aussi longtemps ?
Écoutez, il y a eu un refoulement très fort. En Italie, les communistes étaient très puissants à la libération, culturellement, de par leurs journaux. Et évidemment, ils ont passé sous silence les massacres. Ils en étaient complices dans la mesure où ils avaient milité pour que ces territoires soient yougoslaves. D'un autre côté, tous ceux qui, en Italie, avaient été plus ou moins complices ou soumis sous le fascisme avaient mauvaise conscience. Et par conséquent, ne tenait pas à parler de ces pertes, aussi bien territoriales qu'humaines. Et donc, il y a eu une sorte de chape de silence. Et je pense que la levée du silence est surtout due à la chute du communisme en Yougoslavie. Après 1989, lorsque les dirigeants yougoslaves ont changé, évidemment, eux aussi ont collaboré à la recherche de la vérité. Et finalement, on consent à en parler longtemps, longtemps après.
Selon vous, ces commémorations sont le signe d'une réelle acceptation du passé, ou bien le différent reste-t-il encore d'actualité aujourd'hui ?
Il y a eu un moment, juste après la chute du régime, les années 91-92, il y avait des inscriptions sur les murs de Trieste, la droite des néofascistes, disons, du Partito Nazionale, qui réclamait Istria Italiana, qui avait cette revendication territoriale, mais finalement cela a disparu parce qu'il y a eu un travail de réconciliation des historiens qui ont décidé de travailler ensemble pour faire ce travail de mémoire. Et puis vous avez des intellectuels comme Claudio Magris qui ont justement dit que pour qu'il y ait réconciliation, pour qu'il y ait apaisement des esprits, il fallait que la vérité soit dite et en quelque sorte exorcisée. Et je crois que ça a bien contribué à un travail de mémoire qui ne s'est pas fait de manière revancharde, mais je dirais en collaboration avec les gens de bonne volonté des deux côtés de la frontière.